Vous écoutez France Culture.
Bonjour et bienvenue à tous dans Sciences Publiques. Comme toujours, vos réflexions et commentaires sont vivement attendus sur le site de Sciences Publiques au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Comment l'ambiance sonore des magasins influence-t-elle nos achats ? Les progrès en matière d'études du cerveau humain ont de multiples applications. Ils permettent de mieux comprendre comment fonctionne cet organe lorsque nous apprenons, lorsque nous ressentons du plaisir, de la douleur, des émotions, des addictions. Mais que se passe-t-il lorsque nous achetons ? Une discipline récente se charge de répondre à cette question. Il s'agit du neuromarketing. Cette spécialité ne cherche pas à exploiter du temps de cerveau humain disponible, selon la célèbre formule de Patrick Lelay lorsqu'il était PDG de TF1. Elle étudie les processus mentaux et les comportements à l'œuvre chez les consommateurs. Le neuromarketing a ainsi identifié une cible privilégiée, le cerveau reptilien, le plus primitif, celui où siègent l'instinct de survie et de fuite, mais aussi le plaisir et la peur. L'un des avantages du cerveau reptilien, c'est qu'il est fondamentalement égoïste. Il ignore les notions de mémoire, d'éducation, d'intelligence ou de solidarité. C'est donc à cette partie primitive de notre cerveau que les spécialistes du marketing s'adressent. Il s'agit d'y engendrer des réactions instinctives qui vont conduire à l'acte d'achat. Par exemple, nous sommes particulièrement sensibles au contraste fort entre lumière et obscurité, sécurité et danger, bruit et silence. S'adresser au cerveau reptilien impose d'utiliser des messages simples, voire simplistes, et des éléments visuels tapent à l'œil comme des images. Susciter des émotions fait également partie des instruments efficaces. Or, le son et la musique en sont parfaitement capables. En tentant de court-circuiter l'intelligence, le neuromarketing se dote d'un pouvoir considérable, au point que l'un de ses gourous, Martin Lindstrom, estime nécessaire d'établir une éthique du neuromarketing. Comment les ambiances sonores des magasins sont-elles conçues ? Quelle influence peuvent-elles exercer sur le comportement des consommateurs ? Jusqu'où les spécialistes du neuromarketing sont-ils prêts à aller en matière de manipulation du cerveau humain ? Le consommateur a-t-il son mot à dire ou bien est-il en train de devenir un simple sujet d'expérience pour les experts du marketing ? La réflexion éthique dans ce domaine doit-elle être réservée aux spécialistes du neuromarketing eux-mêmes ou bien d'autres instances peuvent-elles intervenir ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui en direct depuis le studio 1061 de la Maison de la Radio, Olivier Covo, directeur associé de Brandy Sound, cofondateur et président de Sound Value, un institut d'études et de recherche sur l'impact du son. Alain Goudet est directeur associé d'Atout Media, professeur de marketing à la Neoma Business School et chercheur à l'Université Paris-Dauphine. Et enfin, Christian Hugonnet est ingénieur acousticien, fondateur et président de la Semaine du Son. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Christian Hugonnet, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes à la veille, ou presque, de la 11e Semaine du Son qui commence lundi 27 janvier à Paris. Et dont vous nous direz quelques mots en fin d'émission. Mais cette année, vous consacrez en particulier une conférence le 29 janvier, mercredi prochain, au thème des ambiances sonores dans les centres commerciaux et les points de vente. Alors, comment avez-vous été amené à choisir ce sujet ?
Bien, je crois que c'est ces lieux où l'on vend, qui sont des lieux ouverts au grand public, qui sont des encore appelés centres commerciaux, sont des lieux qui nous intéressent parce que, a priori, nous nous posons la question de savoir si ces musiques qui sont diffusées, ces acoustiques qui sont réalisées, est-ce que ces lieux-là, finalement, sont véritablement réfléchis en amont ? Est-ce qu'il y a une vraie réflexion en amont pour obtenir, justement, des lieux qui soient agréables ou est-ce que, véritablement, il y a une volonté de ne pas s'y intéresser. Donc ce sont des questions fondamentales. Et c'est vrai que lorsqu'on a imaginé ce thème, nous avions quand même au fond de la tête, effectivement, dans l'arrière de la tête, on savait effectivement qu'il y avait quand même problème. Problème lié effectivement à manque, on va en discuter peut-être, d'absorption, un manque d'acoustique dans ces lieux-là, effectivement. Mais la vraie question, c'était de savoir véritablement si ces lieux avaient été pensés d'un point de vue sonore. Voilà.
Alors, on va justement parler de ça. Olivier Covo, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes président d'un institut de recherche sur justement l'impact du son. Cet institut s'appelant Sound Value.
Absolument.
Comment vous jugez-vous ce que vient de dire Christian Hugonnet, cette utilisation du son, en particulier dans les lieux publics et en général, et les lieux commerciaux en particulier?
Alors effectivement, il y a un grand savoir sur la manière de scénariser le sonore dans les lieux publics. Cependant, on se rend compte en s'y promenant que ce n'est absolument pas le cas. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une première raison, je pense, qui est qu'on remplit du vide. C'est-à-dire que on est dans une situation où le silence est mal vécu. Donc, le silence, c'est si je reste, par exemple, pendant 5 secondes.
Mais vous nous avez apporté une bande-son dans laquelle il y a un morceau de silence, mais je pense qu'on peut le fabriquer nous-mêmes.
Absolument, on peut fabriquer le silence. Alors, le silence, pourquoi le silence? Parce que...
C'était pas ça, le silence. C'est pour après.
Alors, pourquoi le silence? Parce que le silence, c'est quelque chose, comme vous l'avez dit justement tout à l'heure, on est dans des éléments de survie qui touchent au cerveau reptilien. Et au bout du compte, lorsque on était à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, qu'il habitait dans son environnement naturel, quand il arrivait dans une forêt qu'elle était silencieuse, ça voulait certainement dire qu'il y avait un prédateur.
Alors, voilà, on va écouter l'arrivée dans la forêt d'abord.
Voilà, donc on a les petits oiseaux. Donc s'il y a les petits oiseaux, en fait, ils ne se passent rien.
Le prédateur arrive trop tôt, donc on va essayer. Les petits oiseaux avant le prédateur, mais c'est pas très facile. On a eu ces extraits musicaux assez tard. On va y revenir, c'est pas grave.
Alors, concernant les petits oiseaux, si vous voulez, on se rend bien compte que c'est quelque chose qui nous rassure. D'ailleurs, on peut se rappeler à l'époque, lorsque les parkings Vinci ont lancé leurs identités sonores, donc on arrive dans des endroits sombres où les gens ont peur par nature, on avait, je dirais, des approches sensorielles, y compris du sonore, avec les petits oiseaux, pour les couleurs, avec des couleurs vives, etc., qui permettaient de se sentir rassuré. Et puis d'ailleurs, effectivement, le son dans ces parkings, comme on en a discuté tout à l'heure, fait que les voleurs n'entendent pas les propriétaires de leur voiture arriver.
Voilà, donc ça a plutôt tendance, paradoxalement, à être un bon système anti-vol.
Absolument. Alors, pourquoi on a peur du silence? C'est ça. Et puis, de l'autre côté, les études montrent qu'un point de vente dans lequel il y aurait trop de silence fait un petit peu fuir les consommateurs. Et, à contrario, là où il y aurait de la musique, je dirais, on aurait tendance à rester plus longtemps, etc. Alors, tout ça, c'est très, très relatif. C'est-à-dire que tout dépend de la typologie de point de vente dans lequel on va. Parce que si l'achat est corvée, c'est pas du tout la même chose que dans un point de vente spécialisé où on y va pour un achat plaisir. On peut imaginer que la musique a un impact sur la perception du temps temporel. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression d'être là depuis plus longtemps qu'on ne l'est si on est dans un achat corvée, et exactement le contraire dans un achat plaisir. On peut imaginer aussi que le stimuli rythmique, c'est-à-dire qui touche les gens physiologiquement, vont faire que les gens vont plus vite dans les linéaires si c'est un achat corvée, par exemple.
Alors justement, Alain Goudet, bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous expliquer comment on fabrique une telle musique, c'est-à-dire face à un lieu particulier. Peut-être d'ailleurs à un moment particulier dans l'année, et je ne dis pas ça par hasard, vous avez travaillé justement sur les Galeries Lafayette au moment des fêtes de Noël.
Alors effectivement, vous aviez utilisé comme illustration sur le site de l'émission une photo des Galeries Lafayette au moment de Noël. Alors on avait travaillé sur ce sujet-là en 2009 dans le cadre du Noël des Lumières, donc des Galeries Lafayette, pour l'illustration sonore de leur site web. Et l'enjeu était justement d'évoquer Noël à travers un certain nombre de sonorités sans pour autant tomber dans le cliché des voix d'enfants ou des choses un peu type Tino Rossi, pour être quand même sur quelque chose d'assez classe de pouvoir malgré tout évoquer à la fois Noël et à la fois les Lumières.
Alors on peut peut-être écouter justement les Galeries Lafayette. Peut-être vous pouvez nous expliquer comment on arrive à ce type de sonorité en fonction justement de cet objectif? Alors, Gary Lafayette au moment de Noël.
Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, la musique est un extraordinaire vecteur de langage. Hein. C'est un vecteur, comme l'a dit Henri Johanny, c'est un vecteur communicationnel à tête chercheuse. Donc, il y a bien deux aspects. Un, c'est difficile à éviter. Hein. Un monde sans bruit, sans musique, a fortiori, aujourd'hui, n'existe pas vraiment ou plus vraiment en dehors d'espace spécifique. Et de l'autre côté, y a l'aspect communication. Et c'est vrai qu'on est vraiment donc, sur cet aspect de langage. La musique va pouvoir transmettre un certain nombre d'éléments, de valeurs, de symboles. Et là, typiquement, sur ce qu'on a travaillé donc, pour les Galeries Lafayette, on est d'un côté avec l'évocation de l'hiver, hein, avec un très léger bruissement en fait, en arrière-plan qu'on entend. Au début, je n'ai pas amené les différentes versions qu'on a, mais au début, on était sur quelque chose qui était beaucoup trop présent. Et du coup, les évocations qui sortaient, c'était le côté un peu triste de l'hiver. Donc, il a fallu corriger. Sur le thème principal, là, on est sur une mélodie avec un timbre assez cristallin, justement pour cet aspect lumineux, légèreté, qui évoque assez facilement le monde de l'enfance. Là encore, sur des versions précédentes, on avait un son qui était beaucoup plus rond et beaucoup plus chaleureux au final, et qui ne véhiculait pas bien exactement cette dimension à la fois Noël et enfantine. Donc on procède vraiment par itération. Nous, au niveau d'Atout Média, sur ce genre de sujet, on va à la fois des logiques de post-test, hein, donc une fois qu'on a déployé, bien s'assurer de la cohérence en fait, entre la musique, le visuel, donc là on parle du web, mais en point de vente, c'est exactement la même chose. Et on va également travailler sous forme de pré-test, où on va donc valider justement ces associations qu'on appelle inférences hein, dans le domaine académique.
Et là, quel est votre correspondant chez votre client, qui dans ce cas-là sont les Galeries Lafayette ?
Alors, c'est très variable en fait hein, sur ce sujet-là, en termes de correspondants. Là, on était en lien directement avec l'agence en charge du site web des galeries. Après, quand on est sur du point de vente, on peut très bien être sur du directeur de réseau, du directeur de communication, du responsable marketing. Enfin, il n'y a pas de casquette vraiment définie pour le sonore. Il y a très peu d'entreprises où ça existe. Une des rares, moi, que j'ai rencontrée sur ce sujet-là, c'est la SNCF, qui est effectivement quelqu'un en charge, un responsable de l'identité sonore globale finalement, donc de la prise de parole par la voix, par les sons et par la musique de l'entreprise.
Alors, quand vous avez parlé des Galeries Lafayette, vous avez spécifié qu'il s'agit du site web et vous dites, finalement, c'est un peu la même problématique que dans le lieu de vente. Or, justement, le web prend une importance grandissante en matière de commerce électronique et donc c'est intéressant de penser que, d'après vous, le consommateur est un peu dans la même situation face à un site que face à un stand dans une véritable enceinte commerciale.
Alors, même situation, pas exactement, puisque quand on est sur un site web, on est évidemment à domicile, on est chez soi, donc on crée sa propre ambiance sonore aussi chez soi, peut-être qu'on écoute déjà finalement la radio, et justement là, c'est un des points un petit peu complexe à gérer, puisque quand il y a une ambiance musicale au niveau de la radio, et qu'en plus il y a une ambiance sonore sur un site web, bah, ça rentre très vite en conflit et ça, quelque part, ça agresse un petit peu finalement le visiteur sur le site.
D'autant qu'elle démarre automatiquement souvent, ces ambiances.
D'autant que ça démarre automatiquement. Alors c'est vrai qu'au départ, en fait, on imposait, c'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment pas le choix, on ne pouvait pas arrêter cette ambiance sonore. Aujourd'hui, tous les sites ont adopté la démarche d'avoir un petit lecteur où on peut systématiquement couper cette ambiance très très rapidement, justement en raison de ces conflits. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur le web, on est très vite limité en fait par la bande passante, c'est-à-dire que le signe doit s'afficher très rapidement. Donc on va être sur des éléments sonores qui sont très courts, qui vont être du coup assez répétitifs pour éviter que leur temps de chargement soit excessif. Typiquement, on travaille sur des boucles hein, de 15, 20 secondes, 30 secondes grand maximum et extrêmement compressées, donc on n'a pas une qualité sonore toujours au rendez-vous.
Olivier Covaux, vous avez une idée, vous, de l'impact que peut avoir, justement, un site qui a un environnement sonore élaboré par rapport à un site silencieux, et de même pour les points de vente?
Alors, ce que je pense, si vous voulez, c'est que, donc je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense d'abord que aujourd'hui, on traite un site comme on traiterait, l'aménagement d'un espace public, un concert, et on le programme un petit peu comme une radio. Donc effectivement, on va avoir soit des playlists musicales, soit un référentiel sonore qui est en gros l'univers musical et sonore de la marque. Ce que je pense, si vous voulez, c'est que dans l'avenir, tout va changer. C'est-à-dire que le fait qu'effectivement on rentre dans une société numérique avec des points de contact pour la marque, qui fait qu'elle doit être présente partout et cohérente suivant, je dirais, la posture dans laquelle se retrouve la personne, le consommateur ou le citoyen, fait qu'au bout du compte, lorsqu'elle est sur un site internet, de la même manière d'ailleurs qu'on rentre dans un point de vente, il devrait y avoir une théâtralisation, une scénarisation. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, sur internet, on est au niveau zéro de ce qu'on peut faire avec le son. Pourquoi ? Parce que ayant travaillé des années chez Apple, par exemple, il y a quelques années, on travaillait beaucoup sur ce qu'on appelle la scénarisation des interfaces. Aujourd'hui, avec Dassault Systèmes, par exemple, Brandissant avait commencé à travailler sur ce sujet-là. C'est-à-dire, si vous regardez, par exemple, les mondes virtuels 3D, on est au niveau zéro des interactions sensorielles parce que, je dirais que c'est traité aujourd'hui dans le silence, d'une certaine manière, alors que dans le jeu vidéo, par exemple, c'est traité avec beaucoup de sons. D'un côté, on est dans de l'entertainment, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une relation où on va essayer de distraire les gens, et de l'autre côté, on n'a pas encore assez de compétences, en tout cas, on n'a pas appliqué ces savoirs-là pour théâtraliser, j'appellerais ça, moi, du merchandising sonore, hein, c'est-à-dire exploiter le sonore dans sa dimension de signalétique de marqueur expérientiel pour pouvoir amener, proposer aux consommateurs, par exemple, la mise en exergue d'un produit. De l'autre côté, ces affres-là, ces problèmes-là, on les retrouve dans le point de vente, puisque dans le point de vente, quand vous regardez un peu les programmations, c'est programmé comme une radio. Donc souvent, le point de vente, je dirais, a un public cible. C'est un peu « montre-moi ta musique, je te dirai qui tu es ». C'est-à-dire qu'on va proposer des styles musicaux qui sont plutôt fédérateurs sur ce public-là. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, on va programmer en fonction.
Il y a un véritable studio dans une radio et avec un...
Alors, il y a des logiciels qui permettent de programmer la journée en fonction du matin, du midi et du soir, qui permettent de scénariser des messages publicitaires, etc. Alors après, c'est plus ou moins bien fait, hein, suivant les points de vente et les montants qu'ils désirent y mettre. Mais je pense que ce qui va se passer demain, c'est que, étant donné que le numérique va être de plus en plus présent, notamment dans les nouvelles générations, on va avoir des lieux de vente qui vont devenir des lieux de vie. C'est-à-dire qu'un peu comme ce qu'on a fait chez Apple, au niveau de l'Apple Store, on va tester des produits, on va vivre des expériences, et de l'autre côté, éventuellement, on achètera le produit.
Christian Hugonnet, est-ce qu'en dehors de peut-être la faiblesse actuelle de l'élaboration de ces scénarisations sonores, est-ce qu'il n'y a pas également un problème parfois de qualité du son dans ces lieux ? Et est-ce que, de votre par rapport à votre expérience, ces enseignes travaillent sur cette qualité sonore ?
Oui, je pense qu'on n'a pas forcément pris en considération l'enveloppe à l'intérieur de laquelle, effectivement, est diffusée et réfléchie, justement, tous ces messages dont vous parlez, qui sont, à mon avis, extrêmement, extrêmement forts et extrêmement réfléchis, je pense. Mais il y a derrière, effectivement, ce qu'on appelle cette enveloppe acoustique dans laquelle on baigne en permanence, qui dépend très largement du traitement acoustique des lieux. Et j'ai l'impression, nous avons l'impression, hein, de ce que nous dit en tout cas, et de ce que l'on vit, hein, que précisément on est dans une espèce de brouillage sonore permanent dans lequel on évolue en permanence, et qui nuit précisément et fortement, hein, je veux dire, à l'intention qui est donnée en amont. Est-ce que je me trompe en disant cela ?
Il y a un phénomène de pollution.
Olivier
Covo,
et après Alain Goudet.
Vas-y, Alain.
Christian, tu ne te trompes absolument pas. En fait, il faut distinguer bien deux éléments. Hein. Quand on travaille le sonore, et notamment donc, sur le point de vente ou dans les centres commerciaux, il y a les éléments autour du contenu, hein, ce qu'on évoquait jusque-là en termes d'association, en termes d'inférence, et du coup, vraiment les valeurs et qu'on va pouvoir véhiculer autour de la marque enseigne, l'expérience qu'on va pouvoir faire vivre aux clients, donc là, en l'occurrence, sur le point de vente. Et le deuxième volet, c'est l'exécution. Et l'exécution, là, pour le coup, elle dépend de beaucoup de paramètres, des paramètres techniques, comme les amplis à disposition dans le lieu de vente, les enceintes, la qualité des enceintes, leur répartition, c'est-à-dire en nombre. Est-ce qu'on va avoir une bonne homogénéité finalement d'enceintes et donc de sources sonores, ce qui va permettre d'avoir quelque chose de qualité sans mettre le volume trop fort, ou au contraire, est-ce que déjà on va avoir très peu d'enceintes et du coup, pour essayer de couvrir toute la surface de vente, augmenter le volume sonore, ce qui fait que quand on va être sous l'enceinte, on va être sur quelque chose d'extrêmement agressif. Et finalement, dès qu'on va s'éloigner un peu, si le volume n'est pas assez fort, du coup, on ne va plus rien entendre. Donc, c'est vrai que ce volet de l'exécution, pour le coup, je rejoins complètement Christian, on est encore sur des exécutions qui sont allez, on va dire assez vite faite et pas forcément réfléchie. Là, un centre commercial qui vient tout juste d'ouvrir, hein, pas très loin des locaux de la maison de la radio.
De l'autre côté de la Seine, vous
exactement, voulez dire. Celui-là. J'en viens, j'y étais ce matin. C'est vrai qu'il y a des progrès à faire parce qu'on a cette espèce de dôme central qui fait une très belle colonne vertébrale. Visuellement, c'est très joli. C'est très lumineux, c'est très sympa. Par contre, en tout cas, alors je suis peut-être mal tombé, hein, mais quand j'y suis passé, pour le coup, le volume sonore au niveau des allées du centre était extrêmement élevé. Il y avait une grosse réverbération, donc ça faisait un petit capharnaüm pas très agréable aux oreilles. Et après, derrière, quand on rentre dans l'une ou l'autre des boutiques du centre commercial, il y a cette espèce de confusion, on le ressent bien pendant quelques mètres, où on a l'ambiance sonore voulue par la boutique, parce que créatrice d'expérience, vecteur communicationnel, donc on va passer des valeurs de l'enseigne. Et finalement, ce qui est imposé quelque part par le centre commercial, et tout ça se télescope joyeusement sur une réelle prise en compte finalement du confort d'achat.
Je vous rappelle que vous écoutez Sciences Publiques sur France Culture et que nous débattons aujourd'hui autour de la question « Comment l'ambiance sonore des magasins influence-t-elle nos achats ?» avec nos invités Olivier Couveau, directeur associé de Brandissant et cofondateur de l'Institut Sound Value, et Alain Goudet, directeur associé d'Atout Média, professeur de marketing à Neoma Business School et chercheur à l'Université Paris-Dauphine. Et nous sommes également, bien sûr, avec Christian Hugonnet, ingénieur acousticien, fondateur et président de la Semaine du Son. Christian Hugonnet qui voulait justement réagir aux propos d'Alain Goudet, je pense.
Oui, toujours pour aller dans le sens de cette réflexion sur l'enveloppe dans laquelle on évolue. Dans la mesure où nous intéresserons le 29 janvier au soir au Conseil économique et social au comportement, l'aspect comportemental, c'est ça qui nous intéresse, l'aspect comportemental des clients, justement. Une chose qui doit être retenue dans cet univers réverbérant, et je crois qu'il faut le dire à tous les responsables de magasins, c'est tout simplement le fait que nous avons besoin d'avoir une stabilité des repères de localisation. L'homme se repère par le son. Et c'est le son qui lui permet effectivement d'être sécurisé par rapport à son environnement sonore, ou son environnement tout simple d'ailleurs. Ce n'est pas le visuel qui sécurise les gens, c'est le sonore.
C'est un instinct de survie.
Ça, c'est l'instinct de survie, il est là. J'entends un son dans le dos, je me retourne, donc je porte mon regard sur ce que je viens d'entendre. C'est comme ça que ça marche, et ce n'est pas le visuel qui amène le sonore. Ça, il faut absolument qu'on arrive à renverser la vapeur définitivement sur le plan culturel dans un pays qui est la France, qui n'a pas compris encore cet état de fait. Alors, à partir du moment où on est dans un lieu très réverbérant, eh bien, on va se retrouver sans repère de localisation. Et je suis persuadé, et on en discutera avec certains philosophes, mais aussi avec des acousticiens ce soir-là, le 29 au soir, je suis persuadé qu'il y a un problème précisément de stabilité, de repérage. Et du coup, je pense qu'à partir du moment où on est dans un monde flou de localisation, eh bien, on perd forcément ses repères. Évidemment, on ne sait plus très bien où on en est. Et du coup, on achète un peu n'importe quoi, peut-être aussi. Ou bien on s'en va. Ou bien on fuit le lieu. Donc, il faut penser aussi à ces gens qui fuient les lieux parce qu'ils ne s'y trouvent pas à l'aise. Parce qu'ils ont effectivement une insécurité, parce qu'ils, précisément, ils ne peuvent plus repérer ce qu'ils doivent repérer.
Tu veux dire que dans un centre commercial, en perte de repères, le consommateur est en quête de sens, c'est ça?
Absolument.
Non, mais on peut rajouter à ce que vient de dire Christian le fait qu'il y a aussi un repérage spatial qui, parfois, au niveau purement visuel, est déjà très compliqué. Les quatre temps en étant un bon exemple, où il est assez difficile de savoir où on se trouve sans le plan qui vient au secours du consommateur égaré.
Alors, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est lorsqu'on y met des chutes d'eau. Alors, on y rajoute dans ces grandes allées, en fait, des jeux d'eau, ce qui est plutôt agréable. Visuellement, je veux dire, ça fait plaisir de voir de l'eau, effectivement, et c'est un souhait et c'est une idée intéressante. Sauf que sur le plan acoustique, c'est une catastrophe, car, comme vous le savez, l'eau, c'est un bruit blanc. Hein, c'est un bruit, généralement, qui est vrai, qui est chargé d'une énergie constante qui est la même à toutes les fréquences et qui vient, au-delà du problème qu'on vient de parler, qui vient en plus masquer tout dialogue, toute discussion.
Alors, mais c'est un vrai parasite, en fait.
Donc, c'est un parasite essentiel. On ne discute pas à côté d'une fontaine.
Ah, Olivier Covo n'est pas tout à fait d'accord.
Alors, je suis d'accord sur le fond. C'est-à-dire que ça dépend, encore une fois, de la manière dont on va exploiter l'eau dans une scénarisation sonore. Il faut savoir que le son a un impact sur nous, qui est physiologique. Alors, évidemment, si, par exemple, je vous dis que quand vous êtes au bord de la mer, vous dormez mieux, vous me dites « ok, pas ok ».
Non.
Vous, vous dormez pas mieux auprès des roulées des vagues ? Bah, quand on pose la question, on se rend compte que beaucoup de gens dorment mieux au bord de la mer.
On dit aussi que la mer énerve plus que la montagne, par exemple.
Alors, le roulis des vagues berce plutôt qu'il n'énerve. D'accord. Alors, je parle pas en vent violent de tempête, je parle dans un roulis assez calme. Les Chinois peuvent utiliser l'eau, par exemple, dans des magasins qu'on connaît bien de Nature et Découverte, où on utilise les techniques du feng shui. Par contre, l'eau est modulée dans sa coulée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans
une chute d'eau.
C'est pas une chute permanente, c'est une chute qui est modulée, comme au Japon où on va protéger, si vous voulez, un barrage dans un fleuve pour en préserver le son. Vous voyez ? Donc c'est typiquement le genre de chose. C'est-à-dire que j'ai un bémol là-dessus, parce que, encore une fois, c'est comme les règles du marketing appliquées au son dans un point de vente. Tout dépend comment on l'utilise, il n'y a pas de recette. Donc l'eau, c'est bénéfique physiologiquement, et ça peut être exploité d'une manière tout à fait bénéfique pour la marque.
Christian Hugonnet.
Oui, bien sûr. Je parlais précisément d'un son continu, hein, donc qui finit par étouffer, si je puis dire, hein, comme la musique dont on parlait tout à l'heure, qui est la plupart du temps compressée aussi, c'est-à-dire ramenée vers le haut, hein, sans niveau faible, hein, qui fait qu'in fine, en fait, on est saturé. L'oreille, elle est saturée. Et c'est en cela, effectivement, que nous pouvons nous insurger.
Alors, on va écouter un exemple de musique conçue par Alain Goudet pour la grande distribution. Donc là, on entre dans. On précisera peut-être le lieu exact tout à l'heure. Voilà ce qu'on peut y entendre. Alors, ça nous permet d'écouter une musique qui est assez peu diffusée sur les antennes de France Culture habituellement. Mais vous allez nous expliquer peut-être pourquoi elle est utilisée, cette musique, dans un centre commercial. Par quels moyens on arrive à la conclusion que c'est ce type de musique qui peut être favorable à l'achat sur place.
Alors, effectivement, alors je m'attendais à ce que vous passiez carrément l'extrait plutôt dance, hein, où là, je pense qu'on est vraiment loin des standards France Culture.
On l'est déjà, assurez-vous.
L'idée, en fait, hein, des extraits que je vous ai fait passer, et là, on a entendu effectivement celui plutôt lié à la grande distribution, c'est de pouvoir éclairer un petit peu sur les objectifs qu'il peut y avoir au niveau des différentes enseignes. Quand on est dans un contexte de distribution et de grande distribution, en fait, on s'adresse quand même à la grande partie, hein, de la population française. Donc on a cette contrainte de finalement pouvoir prendre assez peu de risques en termes justement d'associations et d'inférences liées à cette musique et quelque part d'être sur des choses où la prise de risque est très faible et donc on va aller sur des choses connues.
Des tubes en fait.
Alors on va effectivement avoir en gros trois volets, hein, si vous voulez, les choses très récentes qui sont en train d'être largement diffusées sur les stations radio traditionnelles. Voilà, pour être à la pointe de l'actualité en termes de variété sur des musiques type pop-rock. On va avoir des tubes, comme vous l'avez dit, où là, effectivement, on va plutôt aller puiser dans la culture musicale globale de la population un certain nombre de repères, où on sait qu'on ne prend pas de risques, parce que c'est des choses qui ont très bien fonctionné par le passé. Et puis, on va avoir des choses un petit peu plus récentes, qu'on peut appeler récurrentes, qui vont consister en la culture récente musicale donc de la population. Alors, pourquoi on va chercher des musiques familières. L'enjeu au niveau musical là-dessus, c'est qu'en fait, la familiarité va créer un peu la préférence. C'est-à-dire que plus on va entendre un titre, plus on va avoir tendance à l'apprécier. Surtout là, on prend des choses dont on sait que les choses ont bien fonctionné en termes d'appréciation et d'adhésion. Et du coup, l'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que cette appréciation positive rejaillisse en fait sur le lieu. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le cadre d'un grand distributeur, on ne va pas être sur une logique de création d'une atmosphère. Et justement, là, on pourrait en débattre, hein, parce que on va plutôt être sur une logique de, on met en place un média. Et ce média, cette ambiance musicale, doit être sympa. doit plaire au maximum de monde et va être en fait le support à un certain nombre d'autres vecteurs de communication où là, on va pouvoir, au niveau de l'enseigne, diffuser des contenus éditoriaux pour être plutôt sur un axe un peu proximité donc avec les clients. Des contenus autour de l'écosystème de l'enseigne, on va mettre en avant la carte de fidélité, on va mettre en avant un certain nombre de services liés à l'enseigne. Et enfin, et surtout, des contenus commerciaux, on va pouvoir relayer en live, en direct, les promotions du distributeur.
Si je comprends bien, c'est une forme de conditionnement général de du consommateur pour qu'il soit préparé à la réception des messages ensuite qui vont être plus directifs en termes de consommation.
On n'est pas forcément sur cette logique de conditionnement parce qu'on pourrait parler d'amorçage cognitif, mais c'est pas l'enjeu une fois encore sur la grande consommation.
Qu'est-ce que ça veut dire amorçage cognitif ?
Amorçage cognitif, typiquement, vous avez pas mal d'exemples dans la littérature académique qui vous expliquent qu'en gros, si vous diffusez de la musique classique dans un restaurant, vous allez avoir tendance au moment de choisir un vin, au niveau de la carte des vins, à monter un petit peu en gamme sur votre choix et avoir du coup cette volonté de vous aligner en fait avec les codes du lieu et en l'occurrence donc de l'atmosphère sonore dans laquelle vous êtes immergé.
C'est ce que j'appelle exactement du conditionnement en fait.
Sauf qu'on ne l'utilise pas en l'occurrence dans le domaine de la grande consommation.
Ah d'accord. Mais vous utilisez quoi alors ?
Ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on va choisir des musiques familières qui vont constituer des points de repère.
C'est un autre conditionnement. Vous n'utilisez pas la musique classique, certes, parce que vous ne voulez pas qu'on achète ou qu'on consomme un vin de plus grande réputation. Mais vous faites un autre conditionnement pour un autre public avec le même objectif.
Mais j'aime pas le terme conditionnement.
En fait, c'est parce que vous l'aimez pas. C'est que vous l'aimez pas.
et le truc, c'est que... On parle quand même de communication une fois encore et quand une enseigne, une marque prend la parole et communique, évidemment elle va essayer de communiquer de manière positive et efficace pour elle.
Olivier Corot.
Alors, il y a plusieurs choses dans les questions que vous posez. La première, ce que je voudrais dire, c'est que dans un point de vente de type, on va dire, généraliste, on peut appeler ça un point de vente généraliste, on a plutôt tendance à programmer et à créer une radio de marque. Je pense qu'une radio de marque, c'est le nom qui s'y prête très bien, c'est-à-dire ce qu'a dit Alain, des playlists musicales qui sont plutôt, entre guillemets, grand public, une scénarisation qui est plus liée à créer effectivement des messages publicitaires, etc. Et au bout du compte, ce n'est ni plus ni moins qu'une radio qu'on aime ou qu'on n'aime pas, avec une éditoriale qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et avec des messages qui passent ou qui ne passent pas. En amont de ça, ce que je pense, si vous voulez, c'est que dans ces espaces-là, il y a eu d'ailleurs des expériences qui ont été faites, par exemple au départ chez Simply Market, qui a changé un peu son mode de vente au vrac, etc., où on va laisser exister, si vous voulez, la vie à l'intérieur du silence. C'est-à-dire qu'on va plutôt partir d'une atmosphère de magasin qui est emplie, je dirais, de ce que font les humains à l'intérieur d'un espace. En général, plutôt que de s'engueuler, c'est de s'amuser, passer un moment ensemble, acheter, faire la queue, etc., etc. Donc ça, je dirais, sur ce plan-là, on n'est pas dans la manipulation, on est comme une radio qu'on choisirait parce d'abord, quand on va dans un magasin, même si c'est un achat corvée, on choisit Carrefour, Auchan, Système U, etc., pour une raison ou pour une autre. Et si la radio est plutôt bien foutue, la radio ne va pas nous gêner. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mais qu'est-ce que vous voulez dire par le fait qu'on diffuse le son produit par
Si vous voulez, il y a des émissions. C'est comme une radio avec une émission, des émissions. C'est-à-dire qu'il y a des prises de parole, il y a des émissions.
D'accord.
Par exemple, je peux donner des exemples de magasins ces magasins qui vendent de la parfumerie sur les Champs-Élysées, où avant même qu'on rentre dans le magasin, chez Sephora, il y a une émission matinale pour les employés. C'est-à-dire qu'on va...
Conditionner les employés, déjà.
Si vous utilisez le terme conditionner, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que les gens qui aiment la culture sont conditionnés par la culture, vous voyez ce que je veux dire.
Si vous trouvez un mot qui est plus juste, je serais...
Conditionner, je ne suis pas sûr, puisque les gens sont des employés, ils sont payés, ils ont choisi de travailler là avec un salaire, donc ils peuvent être plus ou moins conditionnés, oui. Je pourrais dire que chez Apple, par exemple...
Ils peuvent être quand même plus ou moins efficaces, avoir plus ou moins d'entrain au travail... plus ou moins d'ardeur.
Absolument, je suis complètement d'accord avec vous. Et en même temps, je trouve que c'est plutôt bien d'avoir une émission qui mette en valeur, par exemple, les gens qui ont fait tel ou tel truc dans un point de vente, qui ont fait tel ou tel truc par rapport à une cause, etc. Donc ce type d'émission, ça se fait, ça existe. Et donc c'est plutôt bien vu. Après, je dirais, si on pousse le bouchon, effectivement, ce dont parle Alain, l'amorçage cognitif, alors il y a une expérience qui est assez connue, qui est l'effet Château Lafitte, effectivement, où on pourrait même comparer deux caves à vin. Une cave à vin où vous rentrez pour prendre un cru bourgeois pour aller dans une soirée de potes, et puis en fait vous voulez acheter un cru bourgeois, vous ressortez avec un Château Lafitte. Vous écoutez cette musique de manière, alors c'est ce qu'on appelle de l'écoute passive, c'est-à-dire que la musique, vous ne l'entendez pas. C'est vraiment une écoute passive. Et le stimuli est fait pour vous influencer, c'est-à-dire que par corrélation, vous allez penser raffinement, culture, etc. Donc vous allez aller vers un plus grand vin. Vous allez être dans un point de vente X ou Y, vous allez écouter de la musique allemande, vous allez aller vers des produits allemands, etc. Ce type de conditionnement marche extrêmement bien. Pour ma part, je suis contre. Enfin, donc je le dis très clairement, puisque nous, on prône l'écologie sonore, c'est-à-dire, je crois que le son et la musique a des pouvoirs au niveau physiologique, au niveau émotionnel, au niveau cognitif, au niveau affectif, qui nous permettent de faire des choses. Je faisais ce jeu de mots tout à l'heure, mais on est dans une société en perte de repères, et le consommateur est en quête de sens. On a intérêt à faire des choses qui soient respectueuses de sa santé et de son bien-être.
Ça veut dire que si on mettait de la musique bretonne, on achèterait plutôt du cidre.
Ça peut. Non, aller ça ne veut pas dire ça.
Ça pas et l'accordéon des produits français.
Et des produits français.
Non, je forçais le trait. Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que ce sont des techniques qui peuvent être utilisées dans certains contextes. Évidemment, on ne va pas, mettre une musique allemande et acheter de l'allemand. Mais par contre, ce dont il parle, c'est-à-dire ces effets de perception de gamme, et même ces tests ont été faits sur des problématiques d'achat, acheter français, acheter allemand, etc. C'est quand c'est mis en adéquation, que c'est corrélé dans un contexte donné, ça fonctionne évidemment. Mais c'est de la manipulation.
Alors Alain Goudet, est-ce que ça influence sur le choix, par exemple, de chansons plutôt françaises, plutôt anglaises, avec un lien particulier avec le type de produits qui sont vendus?
Alors oui, clairement, hein, la musique a effectivement une influence hein, sur le comportement de l'individu. Néanmoins, et c'est pour ça que j'aime pas le terme de manipulation, c'est que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas on va mettre tel titre, telle musique, tel son, et hop, les ventes vont augmenter de X% dans le magasin.
En fait, c'est parce que vous n'arrivez pas à manipuler aussi précisément, c'est ça en fait.
Non, c'est pas. Moi, je cherche pas à manipuler les gens. Vous savez, j'essaie.
Et
juste,
quand vous essayez de faire acheter des gens plus qu'ils ne le feraient sans recours à des moyens de ce type. Comment vous l'appelez, cet objectif ?
L'objectif, de toute façon, à un moment donné, d'une enseigne de distribution, c'est effectivement de distribuer ses produits. Donc, de toute façon, là-dessus, l'enjeu est avant tout, et là, pour le coup, je rejoins Olivier, on a clairement des règles d'éthique à suivre. On ne va pas pouvoir se permettre de faire absolument tout et n'importe quoi. Et une fois encore, les liens ne sont pas aussi directs que ce que vous présentez. Notamment, l'ensemble des éléments dans un point de vente ne vont pas être en cohérence et en résonance les uns avec les autres, vous aurez beau mettre une musique bretonne, par exemple, pour essayer de développer vos ventes de produits bretons.
Produits bigoudins.
Voilà. Concrètement, si vous n'avez pas tellement d'autres repères et que finalement le magasin est complètement lambda, les choses ne vont pas fonctionner de manière aussi triviale que ça.
Là où c'est très. Il y a une adéquation forte, par exemple, vous l'avez cité, je crois, tout à l'heure ou avant l'émission, Nature et Découverte a fait un effort d'ambiance. Absolument. Qui est très corrélé. Avec
et un peu différemment d'ailleurs de ce que fait la grande distribution. Bon, vas-y Olivier.
Oui, je travaille avec eux donc, enfin, dans le cadre de recherche.
Hein,
je suis pas fournisseur de communication là dans ce cadre-là. C'est des expérimentations, je dirais, qu'on mène avec une association qui s'appelle Génération Responsable, dans laquelle j'ai invité Christian et qui prône justement cette écologie sonore, c'est-à-dire l'idée que des patrons qui font de la responsabilité sociétale et environnementale pourraient aussi rechercher une norme de qualité sonore. Alors, normes de qualité sonore en étant en amont, parce que la problématique de l'espace et je dirais de l'acoustique, c'est une problématique de choisir en amont, et ça veut dire que c'est le PDG souvent de la boîte qui traite directement avec l'architecte, donc il faut arriver au bon moment. Problématique, je dirais ensuite, d'avoir des choses qui sont cohérentes, évidemment, par rapport à ce qu'est la marque. Alors Nature et Découverte, c'est une marque qui a un territoire, je dirais, extrêmement évocateur, donc évidemment ils ont fait ça de manière tout à fait de bon sens et dans le génie, hein, puisqu'ils l'ont plutôt bien fait, sans en calculer l'impact, la maîtrise, sans en avoir la maîtrise. Ils ont fait ça comme ils le sentaient.
Plutôt instinctivement.
Plutôt instinctivement, mais avec du bon sens. Donc, Nature et Découverte, des sons qui sont plutôt très Nature et Découverte, relaxants. Il faut savoir, par exemple, qu'un rythme à 80 pulsations par minute, bah, c'est celui que la maman a quand elle a le bébé dans le ventre de sa maman. Si elle vit une émotion forte, bah, le cœur s'accélère, l'enfant, il bouge. Donc, il faut savoir savoir que des études montrent que le rythme de 80 pulsations par minute nous fait baisser le taux de cortisol dans le sang, donc ça veut dire l'hormone du stress, ce qui veut dire en gros que c'est un des rythmes préférés de l'humanité en termes de rythme et de tempo plutôt. Donc quand vous avez des musiques qui sont c'est le slow, le spa, des musiques très cool, la lumière est un petit peu tamisée, les gens se posent la question, est-ce qu'une lumière forte fait vendre plus? Non, c'est pas vrai, chez Nature et Découverte on peut avoir de la lumière ou pas de lumière, ça change, c'est surtout les interactions sensorielles dont on parle. Je voudrais rebondir, et là c'est très intéressant, parce que quand on parle d'interactions sensorielles, on parle de Martin Lindström et de ce qu'il raconte, ce que vous avez dit au début. Là il y a un truc très intéressant, c'est qu'en fait on est passé d'une ère, je dirais, où on avait 100 consommateurs autour d'une marque à 100 marques autour d'un consommateur. Donc l'idée c'est pas quel statut je donne aux consommateurs, genre Nike le dépassement de soi, c'est comment je crée de la préférence. Et il y a beaucoup de gens qui se pensent qu'avec le marketing on peut faire du marketing d'émotion. Moi je pense que c'est totalement du bullshit. Donc on met en place des techniques dont je vous parlerai dans quelques temps pour créer de la préférence chez le consommateur. Et la vraie question, c'est comment rester fidèle tout en étant polygame.
Vous écoutez Science Publique sur France Culture. Nous débattons aujourd'hui de la question « Comment l'ambiance sonore des magasins influence-t-elle nos achats ?» Avec nos invités, Olivier Covo, directeur associé de Brandissant et cofondateur et président de Sound Value, Alain Goudet, directeur associé d'Atou Media et professeur de marketing à la Neoma Business School, et Christian Hugonnet, ingénieur acousticien, fondateur et président de la Semaine du Son. Alors pour vérifier s'il y a une vraie différence entre l'ambiance d'un centre de distribution classique, d'un centre commercial et un spa, justement, Alain Goudet nous a apporté un morceau, qui a un numéro évidemment, un morceau qui illustre cette ambiance sonore conçue pour un spa qui se veut relativement zen. Alors, on peut considérer que c'est zen, mais ça va quand même être très variable suivant les personnes, je pense. C'est-à-dire, comment arriver à une... Là on sent que bon, ça, vous avez encore baissé, c'est une autre variante, mais qui est plus douce.
De toute façon, il ne faut jamais perdre de vue que quand on parle de musique, il y a avant tout aussi des réactions individuelles à la musique. Alors, la culture va forger un certain nombre de choses, et ça, du coup, ça permet d'avoir justement un certain nombre de repères et d'exercer le métier qu'on exerce, de faire des recherches sur ces sujets-là, puisque effectivement, on va avoir des comportements culturels quelque part qui vont apparaître. Là-dessus, l'objectif quand on est sur une ambiance type spa. Ça va être effectivement ce que Olivier évoquait, c'est-à-dire utiliser un versant un petit peu différent cette fois-ci de la musique. Je vous ai parlé de la familiarité dans le domaine de la grande consommation. Là, au niveau du spa, certains vous aurez reconnu effectivement Le Grand Bleu d'Éric Serra, le premier qui n'est pas très connu en France, qui est un compositeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Yanni. Il n'a pas fait un grand carton en France. Pour autant, c'est une musique qui va être particulièrement adaptée, puisqu'on est effectivement sur des rythmiques qui sont plutôt médiums et lentes, donc qui vont tourner autour de 80, 90, voire 100 BPM grand maximum. En termes de tempo.
Battements par minute.
Battements par minute, effectivement, donc en termes de tempo. Et là, l'objectif, pour le coup, ça va être davantage d'utiliser un petit peu l'effet physiologique, comme on l'a en musicothérapie, typiquement, de la musique, puisque effectivement, l'effet relaxant, je pense que par contraste, on sent bien la différence dans les atmosphères, on a avec ce type de choix sonore un effet relaxant qui est quasiment immédiat.
Alors c'est un peu compliqué parce que dans un spa, on n'achète pas en fait.
Non, mais c'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas toujours sur de la manipulation. On crée aussi de l'expérience, on crée de la différence.
Le terme que j'utilisais est inférieur, il est moins violent, c'est celui de conditionnement. C'est un tout petit peu en dessous de la manipulation. Olivier Covo, comment vous analysez cet impact? C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, et peut-être aussi il faudrait parler de ce qui peut se passer demain, est-ce qu'on va aller plus loin dans... la tentative d'induire chez des consommateurs un acte d'achat. Alors, quand on est dans un centre commercial, en général, on n'est pas venu là par hasard, c'est plutôt pour acheter, mais on peut acheter plus ou moins. Oui, j'imagine que c'est tout l'enjeu de tout ce que peut faire un centre commercial. Ou alors on peut, on peut ne pas revenir.
Oui. Justement, je parlais de ça, de comment rester fidèle tout en étant polygame. Aujourd'hui, on a le choix. On a autant le choix par le digital que par le nombre d'endroits où on peut se déplacer. Et donc, il y a une étude qui a été faite à l'époque, justement, lancée par Martin Lindström, par un institut d'études qui s'appelle Millward Brown, et qui disait... En gros, je vais vous la schématiser, qui disait, quand je veux toucher tout le monde, je veux être partout, là partout où il faut. Donc là, j'ai beaucoup de clients. Je fais ça comme une pyramide, par exemple Carrefour ou autre. Ensuite, j'ai un produit qui correspond à des besoins. Ensuite, j'ai un rapport qualité-service qui correspond, qui est en phase avec les besoins du marché. Donc là, vous voyez, je perds des clients, plus je monte. Ensuite, il y a la marque. Donc la marque, elle me donne un statut. J'achète parce que j'ai envie, il y a une espèce d'effet miroir. Et puis en haut de tout ça, il y a ce qu'on appelle, ce que les Américains appellent le bonding, la capacité à créer du lien. Et on s'est rendu compte en fait que sur la marque et sur la partie qui crée du lien, c'est-à-dire sur le lien, en fait, c'est pas le fait de faire du marketing qui joue. C'est, on peut obliger personne à vous aimer. C'est-à-dire que je vois pas comment on peut obliger qui que ce soit à aimer. Par contre, on peut incliner quelqu'un à vous trouver plus je dirais plus sympathique. C'est pour ça que je prenais l'image du harem pour les marques et les consommateurs. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on se rend compte que les marques qui activent également les éléments rationnels et ce que j'appellerais et ce qu'appellent aussi les marketeurs les actifs immatériels, c'est-à-dire la marque et les stimuli sensoriels, c'est pour ça que je parlais de l'approche polysensorielle, ont de la part de leurs consommateurs, des consommateurs, plus de préférences. Parce que c'est de la recherche de préférences, c'est-à-dire c'est qui je vais préférer pour aller acheter tel produit. Et ce qui est très intéressant, c'est que le panier moyen s'inverse proportionnellement, c'est-à-dire que sur un Carrefour, on achète un. Et alors évidemment, en haut de la pyramide, on en a beaucoup moins, mais sur ceux qui sont dans le lien et dans la préférence, ils multiplient par 6, je dirais, le montant des achats. Alors ça s'applique à des secteurs comme le luxe, par exemple. Nous, on travaille sur Sound Value pour des marques de luxe où on voit très très bien que l'approche, je dirais, sensorielle, notamment du sonore, est beaucoup plus qualitative que dans des domaines, je dirais, de la grande distribution. Mais ça s'applique aussi à des magasins très spécialisés.
Alain Goudet, on sent bien qu'aujourd'hui, en matière de connaissance du cerveau, il y a une explosion des recherches et des moyens aussi d'investigation, puisqu'on a des appareils qui n'existaient pas avant, les IRM et autres scanners. Est-ce que les gens du marketing se penchent sur ces nouveaux outils ou ces nouvelles connaissances pour en tirer profit ?
Alors, pour en tirer profit, j'en sais rien. Je vais vous répondre.
Profit au sens de leur travail.
En tant que chercheur, en fait, déjà, il faut avoir bien en tête qu'en France, les démarches de recherche type neuromarketing sont très compliquées à mettre en œuvre pour une raison simple, c'est que l'accès à un appareil type IRM, qui permet justement d'aller voir un petit peu au niveau du cerveau
ce qui se passe.
Ces appareils-là sont réservés à des démarches médicales et strictement médicales. Donc, c'est vrai que du coup, pour le coup, on prend du retard. Au niveau strictement recherche académique, on est assez en retard sur ce sujet-là.
C'est-à-dire que les Américains, par exemple ?
Les Américains, les Anglais, les Allemands.
Le font.
Les Canadiens, les Belges.
Voilà.
D'accord.
Beaucoup de gens le font. Et du coup, c'est vrai qu'en termes de recherche, on est un petit peu en retard par rapport à ça. Maintenant, très souvent, on dit, une fois qu'on en est au stade du neuromarketing, on n'aura plus moyen d'échapper aux stimuli, la couleur, la musique, etc. On va être manipulé, conditionné, vous prenez le terme qui vous plaît. Le truc, c'est que les études aujourd'hui coûtent très cher, hein, parce que accéder à un appareil de ce type-là, c'est extrêmement onéreux. Du coup, on a des échantillons qui sont très, très petits. 10, 15 personnes. Et moi, je trouve que surtout...
Qui ne sont pas, je vous coupe là, mais qui ne sont pas dans une condition de consommation très classique. Parce que ces appareils sont très lourds.
Ils ne sont pas en situation, non.
Ils sont allongés dans un tube isolé.
Alors, vous avez des versions
énormément
en tube
ouvert,
etc. Mais clairement, un, on est hors contexte. Deux, on est dans un domaine avec des échantillons très petits. Et trois, surtout, on part d'un présupposé qui, moi, me paraît encore un tout petit peu présomptueux, qui est, on connaît le fonctionnement de notre cerveau. Or, quand on regarde la manière dont progressent les neurosciences en fait sur les dernières années, et finalement les premiers points, là Olivier parlait tout à l'heure de l'effet de la musique sur par exemple le taux de cortisol, on pourrait parler de l'effet sur le taux de dopamine, enfin voilà, on commence seulement à établir ce type de lien sur les neurotransmetteurs, à essayer d'imaginer un petit peu les effets physiologiques qui peuvent se produire. Donc Voilà, je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire pour la compréhension très fine, si tant est qu'il y a un lien direct entre simplement « je fais entendre une musique » et derrière un comportement qui est mis en place.
Olivier Covo.
Alors, il y a deux choses quand même. D'ailleurs, je tiens à citer le livre d'un excellent livre sur la compréhension de la musique et du cerveau, qui est pour une fois pas celui d'Oliver Sacks, Musicophilia, mais plutôt celui de Daniel Levitin, de La note au cerveau, qui est excellent, qui explique, si vous voulez, donc lui c'est un ancien musicien, producteur, qui est donc docteur, qui a commencé à faire, et donc pour faire ce type de travail, hein, c'est comme Emmanuel Bigand, enfin il y a un certain nombre de personnes qui connaissent la musique, et qui par ailleurs savent lire les partitions du cerveau, font des travaux, notamment sur comment se créent les émotions à partir du stimuli sonore. Donc, par exemple, ça c'est très intéressant, on se rend compte que le cerveau est fait de telle manière que, en fait, quand on écoute une musique, il se crée des schémas neuronaux, hein, qui sont spécifiques. À la première écoute, à la deuxième écoute, on reconnaît les fausses notes, hein, une culture différente. Et surtout, notre cerveau anticipe en permanence, alors par la partie cérébelleuse, le rythme, et par d'autres parties du cerveau, je ne vais pas rentrer dans le détail, si vous voulez, la construction, c'est-à-dire le timbre, la hauteur, le contour, etc. Et au bout du compte, quand on a écouté par exemple une musique des Beatles une première fois, et qu'on va écouter deuxième fois une musique de John Lennon, je sais pas, la structure qui est en quatre temps et les couplets qui sont tous les quatre mesures, par exemple, si à la dernière note de la quatrième mesure, il y a un silence, le cerveau, à la première écoute, aura pensé qu'il y avait une note, et le fait qu'il y ait silence va créer un effet de surprise et vous donner une émotion. Donc ça, on commence à très très bien comprendre. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on manipule avec ça, c'est un souci de ce que j'appellerais le cerveau de cristal, c'est-à-dire comment ça résonne et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et la deuxième chose, juste rapidement, aujourd'hui, il y a des études qui existent, par exemple, pour pré-tester un film publicitaire avec la musique, vous avez des caméras dans l'ordinateur, les gens ont modélisé des savoirs par les neurosciences bien avant, ils savent exactement ce que les expressions de visage activent comme émotion, il y a aussi le temps de réponse. D'accord ? Et on peut pré-tester si quelqu'un aime ou pas le son, la bande-son d'un film, le film, etc. Donc ça se fait assez de plus en plus, ce genre de choses.
Ce que vous nous dites, en gros, c'est qu'on n'a pas encore les moyens de pouvoir totalement percer les secrets du fonctionnement du cerveau qui permettraient de mieux manipuler, pour le coup, le consommateur. Non, je reste sur ce mot parce que je ne m'en avais pas donné d'autres qui puissent
communiquer.
Me paraître.
Alors, plus... Moi, je préfère communiquer, clairement.
Le terme communiquer est un peu gênant pour une raison, c'est que ce que disait Jacquard, c'est communiquer, c'est se mettre en relation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ère où la communication, c'est de l'influence. C'est-à-dire qu'on fait très peu de différence entre l'opinion, qui met du pathos, l'information, la communication et, je dirais, la propagande. Donc, communiquer, c'est influencer, effectivement.
Christian Hugonnet.
Je vais en parler juste après, mais...
Christian Hugonnet.
Je pense que c'est le métier d'influencer.
De ce que j'entends, en tout cas, plus que jamais, se rappeler que l'oreille n'a pas de paupières, c'est une chose essentielle. Donc, ça veut dire qu'on peut rentrer chez tout un chacun à tout moment, sans crier gare et sans frapper, si je puis dire. D'où l'importance, évidemment, d'une prise de conscience, et c'est bien le but de la semaine du son, précisément, nous amener tous à être conscients du fait que ce sonore peut nous conditionner, on vient de le démontrer, enfin, en tout cas, on essaye de le démontrer, et on s'aperçoit à quel point, justement, la connaissance du cerveau aujourd'hui va nous permettre de mieux comprendre nos fonctionnements. Mais, il y a tout à dire, c'est un secteur absolument incroyable, mais ce dont on n'a pas parlé, et je reviendrai peut-être très rapidement sur ces ambiances des centres commerciaux, ce qui est important, c'est d'arriver à également respecter bien évidemment le client, mais je crois qu'il va falloir aussi respecter le vendeur et l'employé.
Absolument.
Et je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé de cela, mais c'est un vrai souci. J'ai vu l'autre jour dans des grandes surfaces des employés détacher véritablement les enceintes.
Absolument.
Parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ils étaient, Donc c'est une chose que de rentrer dans un lieu pendant une heure de temps et d'en sortir, c'en est une autre que de passer une journée entière.
Absolument.
Alors, c'est une question que l'on peut aussi se poser.
Alors c'est d'autant plus une question qu'aujourd'hui, on n'en a pas parlé non plus, mais il y a une forme de personnalisation extrême de la consommation de musique, par exemple. C'est-à-dire que tout le monde, beaucoup de gens, en tout cas, écoutent leur propre musique, même dans les centres commerciaux. Et là, il y a une concurrence qui va s'établir entre l'ambiance sonore, la musique qu'ils écoutent, les différentes ambiances dont vous parliez quand on passe du centre à un magasin particulier de ce centre. Et donc, ça devient une véritable cacophonie, potentiellement. Olivier Covo.
Alors, les méthodes de diffusion ont évolué. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir une cacophonie si on ne fait pas attention sur, je dirais, la théâtralisation, la scénarisation. Pour ce faire, j'aimerais faire écouter l'exemple exemple de Renault, qui est en fait un exemple où on a... je vais écouter d'abord. Alors, voilà.
Là, alors ça, c'est dans quel contexte ?
Alors ça, justement, je vais donner le contexte. On est au Technocentre de Renault, c'est un espace qui est l'espace de l'innovation, et on a des technologues, j'appelle ça des technologues, qui conçoivent des voitures. Et l'idée, c'est qu'ils sont dans des approches très fonctionnelles, ils sont plutôt dans le comment ça marche que dans le à quoi ça sert, et on a créé des douches sonores, donc pour eux et pour le grand public, qui leur permet d'arriver le matin en me disant « aujourd'hui, je me sens plutôt de quelle humeur ?» Et donc, ils rentraient dans cette douche sonore, qui est une immersion sensorielle. Ils appuyaient sur un bouton. Là, aujourd'hui, je me sens plutôt endurant. Donc, il appuyait sur endurant. Je me sens plutôt d'humeur badinée amoureuse, etc. Et en fonction, de son humeur, il pouvait avoir accès à un stimuli sonore qui traduisait cette émotion. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'on voulait lui faire ressentir comment, avec le son, on pouvait développer des émotions. Ça, c'est un exemple.
Donc, si quelqu'un est déprimé, par exemple, il appuie sur le bouton déprimé et il a une musique qui le déprime encore plus.
Alors, s'il appuie sur le bouton déprimé, il va déprimer encore plus.
Voilà. Donc, ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bouton déprimé.
Il n'y a pas de bouton déprimé. Par contre, ce que disait Alain tout à l'heure, c'est que, et ça, il y a des études qui le montrent très clairement, il y a même une pharmacopée au Canada qui propose à des gens qui ont des problèmes de dépression de prendre des ordonnances sonore et musicale.
Voilà, on va rester sur cette note. Le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Olivier Covo, Alain Goudet et Christian Gonnet d'y avoir participé. Je rappelle le livre d'Alain Goudet qui s'appelle Marketing sensoriel du point de vente. Donc tout un programme qui est paru chez Luno l'an dernier et que vous retrouverez sur notre site dans quelques heures. Alors pour peut-être deux mots de Christian Gonnet sur la semaine du son qui nous confirme bien qu'elle commence lundi prochain, 27 janvier. J'ai pris un peu d'avance.
Non, ce n'est pas un poisson. Et nous irons donc en différents lieux, notamment au Conseil économique et social, c'est le mardi et le mercredi. Tout ça, c'est ouvert au grand public. Je cite également...
Le programme est sur le site
de l'émission. Mais je dis aussi, c'est important, qu'il y aura un film qui va sortir au niveau national qui s'appelle « Les nuances de la voix », réalisé par Gérard Corbiot et qui va être lancé dans toutes les salles de France et de Navarre pour initier les gens, le monde, de manière générale, à la notion de niveau sonore.
Très bien, merci beaucoup. Rendez-vous donc à la Semaine du son dans le programme et sur notre site où vous pouvez également réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant un an tout en nous faisant part de vos réactions, commentaires et témoignages. La semaine prochaine, je n'ai pas le temps de vous expliquer de quoi nous allons parler. Juste un mot pour vous dire que ça sera l'émission en partenariat avec Science et Vie et que nous avons retenu ce mois-ci le thème des 9 milliards de planètes qui existent dans notre galaxie, la Voie lactée, et que nous en parlerons avec nos invités Michel Cabanne, Francis Rocard et Pierre Thomas. Sciences Publiques, Dany Journaud, Marie Dalquier, Michel Albergantin. Nous vous laissons en compagnie d'Augustin Trapenard pour le Carnet du Libraire. Merci à tous, excellent après-midi sur France Culture et à la semaine prochaine.